Cours de philosophie de la matière à Rimont par le père Philippe, 28 mars 1990.
Comme vous êtes très fatigué avec la physique d'Aristote, on va aller rapidement, puis on regardera après le Contre-Gentilès. La manière dont saint Thomas, dans le Contre-Gentilès, se sert de ses voix. Alors, je vois uniquement, pour terminer, hein, dans le livre 8, le chapitre 10, c'est-à-dire 266 à 11. Disons maintenant, c'est le premier moteur est inétendu. Avant des choses qui... C'est la primauté, vous voyez. Il y a des choses quand même intéressantes avant. On y reviendra peut-être quand vous serez un peu reposé. La primauté du mouvement circulaire. C'est quand même très important, ça. C'est le chapitre 9. C'est pas très commode, mais c'est important. La primauté du mouvement circulaire. Et puis 8-8, c'est là où on était arrêté presque. Le transport continue. Dans le transport continu, je vais prendre tout de suite la primauté du transport circulaire. Il montre avant, juste 8-8, il montre la continuité du transport circulaire, que seul le transport circulaire peut être continu. Et ensuite, alors ça c'est encore plus important, c'est la primauté du transport circulaire. C'est le mouvement circulaire, ça commande tout. Il est évident que le transport circulaire, Tone, Forone et Cucloforia. Il est évident que le transport circulaire est le premier des transports. En effet, tout transport, comme nous l'avons dit précédemment, est ou circulaire, ou rectiligne, ou mixte. Ceux-là sont nécessairement antérieurs à celui-ci, puisqu'il en est composé. Et le circulaire est antérieur au rectiligne, car il est plus simple et plus parfait. En effet, il n'y a pas de transport sur une droite infinie, car un tel infini n'existe pas. Et s'il existait, rien ne serait ainsi mu. Mais l'impossible ne se produit pas, et parcourir l'infini est impossible. Une ligne infinie droite est impossible. Tandis que le mouvement circulaire peut être infini. Il est simple. Maintenant, le mouvement sur une droite finie, quand il est rebroussé, le flux, le reflux, est composé et forme deux mouvements. Quand il n'est pas rebroussé, il est imparfait et destructible. Or, le parfait est antérieur à l'imparfait selon la nature, selon la notion et selon le temps, et l'indestructible au destructible. En outre, un mouvement qui peut être éternel est antérieur à celui qui ne le peut. Or, le mouvement circulaire peut être éternel, tandis qu'aucun des autres, ni le transport, ni d'ailleurs aucun autre, ne le peut. Car un arrêt doit se produire, et s'il y a arrêt, le mouvement est détruit. il nous a paru, d'autre part, raisonnable que le mouvement circulaire fût un et continu, et que le rectiligne ne le fût pas. Pour le rectiligne, en effet, le commencement, la fin et le milieu sont déterminés. Et il a tout cela en soi-même. De sorte qu'il y a pour la chose mue un point de départ, un point d'arrivée. Aux limites, en effet, il y a toujours repos, à la limite initiale comme à la terminale. Pour le circulaire, tout cela est, au contraire, indéterminé. Car pourquoi, entre les points qui sont sur la ligne, celui-ci plutôt que celui-là, serait-il une limite? Chaque point, en effet, est au même titre commencement, milieu et fin. Et par suite, une chose qui se meut en cercle est toujours au commencement comme à la fin. Et il n'y est jamais. Aussi, pourquoi la sphère est-elle mue et, en un sens, en repos, puisqu'elle occupe le même lieu? La raison en est que toutes les propriétés en question appartiennent au centre. C'est qu'il est pour cette grandeur commencement, milieu et fin. D'où il suit que ce point étant en dehors du cercle, il n'y a pas de point où le mobile transporté doit être en repos, après avoir achevé son parcours. Le transport, en effet, a toujours lieu alentour du milieu, mais non dans la direction de l'extrémité finale. Voilà pourquoi la sphère demeure en place, et en un sens, la masse totale toujours est en repos, en même temps qu'elle est mue de façon continue. Oui, cette constatation d'Aristote de ce que c'est que le mouvement circulaire, c'est que le mouvement circulaire peut être infini, puisque chaque point peut être un point de départ et peut être une fin. Tandis qu'au contraire, le mouvement rectiligne implique toujours un point de départ, un terme et un centre. C'est pour ça que le cercle peut être parfait comme mouvement et éternel. Ça, c'est la première raison. C'est qu'il n'y a pas de point de départ. Il n'y a pas de fin. Tout peut être point de départ et tout peut être fin. Alors, deuxième raison, autre preuve qui se tire de la réciprocité suivante. C'est parce que le transport circulaire du ciel et la mesure des mouvements qui doit être premier, car partout c'est le premier qui mesure. Et c'est aussi parce qu'il est le premier qu'il est la mesure des autres. Donc, le mouvement circulaire du ciel est mesure de tous les autres. En outre, troisième raison, seul le transport circulaire peut aussi être uniforme. En effet, les choses mues sur une droite ne sont pas transportées uniformément du commencement vers la fin, car plus elles s'éloignent de l'état où elles sont en repos, plus rapide est le transport. Or, pour le seul transport circulaire, le commencement et la fin ne sont pas par nature en lui, mais hors de lui. Que d'autre part, le transport selon le lieu soit le premier des mouvements, c'est ce dont témoigne tous ceux qui ont fait mention du mouvement. Ils attribuent en effet le principe du mouvement à des moteurs d'un tel mouvement, car la séparation et la réunion sont des mouvements selon le lieu. Or, c'est ainsi que, selon Empédocle, meuvent l'amitié et la haine. L'un, en effet, réunit, l'autre sépare. Et selon Anaxagore, l'intelligence sépare en tant qu'elle est le moteur premier. En réalité, c'est l'intelligence est séparée. C'est Griatus ou Tim Perret. L'intelligence est séparée pour jouer ce rôle de moteur. C'est curieux qu'ils mettent ça comme ça. Il est sans doute très mal traduit. Kaiton non, au dire d'Anaxagore, diarenein, to kinesanta proton. Donc, séparer le nous, mouvement premier. Je crois que c'est comme ça qu'on doit dire. Et non pas l'inverse. L'intelligence sépare. Non. En tant qu'elle est le premier moteur. L'intelligence est séparée en tant qu'elle est le premier moteur. De même, tous ceux qui, sans alléguer une cause de ce genre, prétendent que le mouvement a lieu grâce au vide. En effet, d'après eux, c'est un mouvement local qui est le mouvement des corps naturels et élémentaires. Car le mouvement dû au vide est un transport, comme en un lieu. Quant aux autres mouvements, aucun n'appartient, pense-t-il, au corps élémentaire, mais seulement à ceux qui en sont formés. Ils disent en effet que l'accroissement, le dépérissement, l'altération proviennent de la réunion et de la séparation des corps insécables. De la même manière, tous ceux aussi qui rendent compte de la génération et de la destruction par la condensation et la réfraction, ils constituent celle-ci par des réunions et des séparations. Ajoutons enfin à cela ceux qui font de l'âme la cause du mouvement, car disent-ils, ce qui se meut soi-même est le principe des mues. Or, le vivant et tout être animé se meut soi-même du mouvement local. Bien plus, cela seul, dit-on, se meut au sens principal, qui est mu du mouvement selon le lieu. Tandis que si la chose est en repos à la même place, même qu'elle soit accrue, diminuée, ou qu'elle vienne à être altérée, nous parlons bien, en un certain sens, de son mouvement, mais n'en parlons pas absolument. Donc Aristote s'appuie là sur tout le témoignage des anciens pour montrer que le mouvement circulaire est le mouvement premier. Là, ça, c'est une démonstration dialectique, puisqu'il s'appuie sur l'opinion des autres. Alors, je crois que l'argument principal d'Aristote, pour montrer que le mouvement circulaire seul peut être éternel, c'est que dans le mouvement circulaire, il n'y a pas de premier. Mais si le mouvement est infini, il ne peut pas y avoir de premier. Parce que s'il y a un premier, vous comprenez, on s'éloigne de plus en plus. Donc on va toujours plus loin, à l'infini. Et donc vous avez une grandeur en acte infini, ce qui est impossible. Donc, seul le mouvement circulaire peut être infini. Et donc peut être éternel. Puisque c'est ça qui l'intéresse. Et continue. C'est le mouvement des premiers siècles, dans la vision d'Aristote. Que le mouvement a toujours existé et qu'il existera tout le temps, quel est aussi le principe du mouvement éternel, et encore quel mouvement est le premier, puis quel est le seul mouvement capable d'être éternel, et enfin que le premier moteur est immobile, voilà ce qu'on vient d'expliquer. Voilà la conclusion du livre 8. Et tous les points que prend Aristote successivement. Et c'est pour ça qu'il part, je dis, tout le livre 8 repose sur les deux premiers chapitres du livre 8. Le mouvement a toujours existé. Donc le mouvement est éternel. Quel est aussi le principe du mouvement éternel? Et encore, quel mouvement est le premier? Mouvement circulaire. Puis quel est le seul mouvement capable d'être éternel? Le mouvement circulaire. Et enfin, que le premier moteur est immobile. Voilà ce qui vient d'être expliqué. Voilà tous les points de ce livre 8. Mais remarquez que tout repose sur la première affirmation. À la différence du livre 7. Nous avions vu que le livre 7 était purement critique et ne prouvait rien. Critique pour nous montrer que l'absolu ne peut pas être dans un monde physique. Que le monde physique ne peut pas exister seul. Voilà ce qu'Aristote montre. Donc il faut sortir du monde physique pour arriver à un absolu. Mais il ne dit pas ce qu'il est. À ce point de vue-là, c'est le livre 7 qui est beaucoup plus intéressant au point de vue philosophique. Le livre 7 reste vrai. Le livre 8, non. Donc, pas inquiétant que vous n'ayez rien compris au livre 8, ce qui n'est pas vrai. C'est pour ça que vous ne l'avez pas compris. Tandis que le livre 7, lui, est parfaitement intelligible. Je crois que vous l'avez beaucoup mieux compris. En partant que tout ce qui est mu par un autre. Mais en comprenant que tout ce qui est mu par un autre n'est pas au sens strict un principe, mais une loi de ce qui est mu. Si ceci est vrai, vous voyez, c'est très intéressant. Et on l'a jamais vu. Moi, je l'ai, moi, j'ai jamais vu dire ça d'Aristote. Au niveau de ce qui est. Un axiome. Un axiome premier. Ce qu'on appelle l'axiome de non-contradiction. Et on devrait reprendre le langage d'Aristote et dire toujours un axiome de non-contradiction. La loi de l'être, au point de vue de l'intelligence, c'est ce qu'on appelle le principe de non-contradiction. Disons l'axiome de non-contradiction. C'est une loi. C'est pas un principe. Au niveau de ce qui est mu, un axiome, premier, tout ce qui est mu par un autre. C'est un axiome. En ce sens que c'est la loi du devenir, la loi de ce qui est mu. C'est pas un principe. On dit toujours ça, que c'est un principe. Vous voyez, c'est le mot principe qui est très équivoque. Hein, parce qu'alors on croit que c'est une cause. Non, on n'émet pas un principe là. On émet une loi d'intelligibilité. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui est mu comme premier. Donc il est par un autre. Ce qui est mu n'est jamais premier. Ce qui est, est premier. Oui, c'est pour ça qu'on a les deux. Et c'est le plan critique. C'est la loi critique. Parce que quand vous émettez le principe de non-contradiction, vous ne pouvez pas affirmer en même temps que ceci est et que ceci n'est pas sous le même point de vue. Qu'est-ce que vous affirmez ? Vous affirmez qu'il n'y a rien au-delà de l'être. Parce que si vous pouviez affirmer en même temps que quelque chose est ou n'est pas, vous affirmez qu'il y a un sujet au-delà de l'être. C'est ce que fait Hegel, qui montre que le nous, dans son activité, est au-dessus de la contradiction. Autrement dit, Hegel met l'esprit, l'intelligence, au-dessus de l'être. Tandis que si l'être est premier, qu'il n'y a rien au-dessus, forcément, la négation qui supprime l'être, là oui, il n'y a plus rien. Vous ne pouvez pas affirmer en même temps qu'une chose est et n'est pas sous le même aspect. Parce que vous faites de la contradiction des contraires. Si vous affirmez en même temps. Affirmer en même temps, ça veut dire qu'il y a un sujet. S'il y a un sujet, mais oui, il y a quelque chose qui demeure au-delà de la négation. Tandis que si l'être est premier, l'affirmer, très bien, mais le nier, vous supprimez tout. Donc il n'y a plus rien. Je crois que cet axiome montre la primauté de l'être et cet autre axiome montre que tout ce qui est mu est toujours second. Et c'est pour ça qu'au point de vue de l'intelligibilité, il existe toujours un autre. Un autre qui est antérieur au mouvement. Vous voyez ? Et quand saint Thomas prend dans ses preuves tout ce qui est mu par un autre, au fond, il est au niveau critique, au niveau de l'intelligibilité. C'est pour ça qu'on ne devrait pas employer ça dans une voie d'argumentation par rapport au premier moteur. On devrait dire tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Alors, à ce moment-là, vous avez le principe de causalité finale. Tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Or, ce qui est mu est en puissance, donc dépend de ce qui est en acte, et qui n'implique pas de potentialité. Alors, regardons maintenant. Donc ça, c'est le livre 7 qui montre ça. Oui.
Est-ce qu'on ne peut pas parler quand même d'un principe d'intelligibilité du devenir ?
Oui, c'est la même chose, une loi.
Oui, mais vous aviez l'air de
oui.
Pas vouloir qu'on utilise le mot principe.
Mais il faut faire grande attention. Vous voyez, le mot principe aujourd'hui, on l'emploie tout le temps comme ça. Si je le prends principe, dans le sens où Aristote le prend, dans l'ordre de l'intelligibilité, il peut y avoir un premier. Dans l'ordre. Mais en réalité, ce premier dans l'ordre de l'intelligibilité, où est-ce que vous le saisissez ? Vous le saisissez en critique.
Oui, mais c'est critique de dire ça.
Oui, c'est critique, c'est pour ça que je dis c'est critique. Alors, en critique, qu'est-ce que vous saisissez ? Vous saisissez le point de vue de l'intelligibilité et le conditionnement de l'intelligibilité. Ou l'au-delà du conditionnement. Le principe de non-contradiction, hein, où est-ce que vous l'expliquez en philosophie ? Est-ce que vous l'expliquez en philosophie première ?
Non, c'est son fondement ultime.
Donc c'est en critique. Parce que c'est affirmation et négation. Vous réfléchissez sur affirmation et négation. C'est en critique qu'on fait ça. Et vous voyez que l'affirmation, quand elle touche l'être, ou la négation, quand elle touche l'être, eh bien se neutralise absolument. l'affirmation « ceci est » et la négation « ceci n'est pas » se neutralise. Il ne reste rien. C'est ça que ça veut dire. Il ne reste rien. Tandis que l'affirmation d'une forme ou d'une non-forme, il reste quelque chose, le sujet.
Est-ce que c'est à partir du langage qu'on découvre ou est-ce que c'est au terme de la métaphysique?
C'est la réflexion sur ce qui est l'être comme principe d'intelligibilité. Primo caditi intel et tous ens. Le primo caditi intel et tous ens, où est-ce que vous le saisissez? Critique. Donc, vous voyez. Ce qu'on n'a pas assez distingué, au fond, dans le thomisme habituel, la scolastique décadente, on n'a pas distingué assez le point de vue critique et le point de vue métaphysique. D'où est né Kant? Faut pas l'oublier. Kant est né à partir de là. Wolf. Et le Wolf est le dernier scolastique. Le dernier grand scolastique. Et Kant est né à partir de Wolf. Le premier Kant est wolfien. Et Kant a réfléchi, il dit, mais c'est impossible. Elle a rimé le primat de la critique. Confondre critique et métaphysique, c'est mettre la critique en premier lieu. Parce que la critique est plus proche de mon conditionnement intellectuel.
Est-ce que c'est pas ce que fait l'ontologie?
Ah oui, tout à fait en plein. C'est la conséquence.
Est-ce que c'est la conséquence ou est-ce que c'est contraire à la cause?
Ah, je crois que c'est la conséquence. L'ontologie, c'est un manque de distinction entre la critique et le point de vue métaphysique. C'est parce qu'il y a, pas, il y a une confusion entre critique et métaphysique que vous tombez dans l'ontologisme. Vous passez de l'intelligible à l'être. Et oui, je dis bien, vous passez de l'intelligible, c'est-à-dire vous passez de la critique à la métaphysique. Donc vous mettez la critique en premier lieu. Mais je crois que c'est ça le péché, si j'ose dire, ou l'erreur fondamentale au thomisme décadent, comme de la scolastique. Alors, si nous reprenons une position philosophique aristotélicienne, on veut le réalisme, il faut qu'on soit très très net sur la distinction métaphysique et critique. Parce que Kant est entre saint Thomas et nous.
Est-ce que ce n'est pas dangereux, justement, à cause de ça, de dire que le principe de non-contradiction se découvre à partir de l'affirmation et de la négation?
Ben non. L'affirmation et la négation est première dans ma vie. Vous avez affirmé et nié bien avant de penser au principe de non-contradiction.
Ben, c'est un premier dans l'ordre de venir aussi.
C'est un premier dans l'ordre de la découverte. Oui. Oui, mais dans l'ordre de nature, vous comprenez, au point de vue critique, il n'y a pas de premier en critique. La critique présuppose toujours la connaissance. Donc il n'y a pas de premier. La critique est tout le temps relative à quelque chose d'autre. Le jugement d'existence, pour moi, est premier, il n'est pas critique. Vous ne pouvez pas critiquer le jugement d'existence. Vous ne pouvez pas. Vous l'acceptez ou vous l'acceptez pas, ça, c'est autre chose. Mais vous ne pouvez pas le critiquer. Parce que si vous le critiquez, vous mettez justement avant le point de vue. Primo caditi in tu sens. Et qu'est-ce qui vous fait dire primo caditi in tu sens? C'est le jugement d'existence. Ceci est. Et vous voyez, tout repose sur ce qu'Aristote dit. La première interrogation est-il. Est-ce que cela existe? Et la seconde interrogation, qu'est-ce? Et Descartes, je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, Descartes explicitement dit, là je tourne le dos à Aristote. Pour moi, la première interrogation, qu'est-ce? La seconde, est-ce que ça existe? entame le lit de Kant. Alors moi je crois que ça c'est... Vous voyez, je ne l'avais jamais... Pendant bien longtemps, je disais, moi, que je n'avais pas relu le Aristote 7 et 8. Et j'avoue que... on répète ce que les autres disent. Et répéter ce que les autres disent, c'est dire oui, tout ce qui est mu, mais par un autre principe. Je m'étais toujours posé la question, quel rapport entre la nature, principe, cause, et ça. Ce qui est mu par un autre, en réalité, c'est la loi du devenir. Ça vous gêne, ça, ou bien non? Faut me dire, hein, parce que je suis pas prêt à changer pour parce que ça vous gêne. Mais...
comprendre pourquoi ça vous gêne, vous, de parler de principe.
Là. Mais parce qu'un principe, pas un principe propre, je devrais dire principe propre, comme cause.
Ah oui, mais comme cause.
Voilà. Donc, si et or, si c'est un principe qui n'est pas une cause, c'est une loi. C'est un premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Et un premier dans l'ordre de l'intelligibilité n'est pas premier dans l'ordre de l'être. Et donc, c'est une relation. La loi, pour moi, est une relation. Une relation nécessaire. Tandis que le principe, il est premier. Donc il n'est pas une relation. C'est pour ça que ça me gêne, vous voyez? Parce que je prends tout de suite le principe, évidemment, au sens fort. Quand vous dites que le Père est principe, ben vous ne dites pas qu'il est une loi. Vous voyez? Quand cet homme a dit le Père est principe, il n'est pas cause. Ah, ça va très bien. Quand vous dites que l'axiome de nos contradictions est un principe, ça me gêne. Parce que je n'ai jamais vu le principe de nos contradictions dans la réalité. Vous non plus.
Oui, mais vous prenez principe par...
Voilà, je prends principe au sens intelligibilité. Et donc, au niveau loi. Alors, ne vaut-il pas mieux, pour éviter tous les équivoques, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien ce que c'est qu'une loi. C'est la loi fondamentale de la vie intellectuelle. Et si vous rejetez cette loi fondamentale, vous ne pouvez plus rien dire. Alors, vous êtes obligé de tout réinventer dans une dialectique, un mouvement dialectique. Et le mouvement dialectique est au-delà de l'axiome de nos contradictions.
Encore, vous dites que c'est la loi fondamentale de toute vie intellectuelle.
Oui. L'axiome de nos contradictions. Pas oui. Tout ce qui est même. Oui. Non, j'aime bien avoir vos réactions. Puisque... Si je ne l'ai pas vu, dit, c'est pour ça que ça m'inquiète, vous voyez. Et en relisant avec vous le livre 7, en essayant de le comprendre, et pas simplement de le répéter, je vois que ce livre 7, pour moi, c'est tout simplement un aspect critique. Aristote, je comprends très bien, Aristote ne dit pas quand c'est critique. C'est pour ça qu'on l'a si mal compris, du reste, au fond. Vous voyez, il ne dit pas, par exemple, quand il développe le livre Gamma en métaphysique, il ne dit pas que c'est un livre critique. Alors, nettement, c'est un livre critique. Il ne le dit pas. S'il avait dit « Faisons un peu de critique maintenant », non, il n'emploie pas le mot. Et on est obligé, nous, de l'employer, à partir de Kant. Kant a apporté ça. Mais c'est comme on est obligé de distinguer anthropologie et philosophie première depuis Kant. Avant, ce n'était pas obligé. Et Kant a mis ce mot anthropologie, et puis ça a fait fortune. Oui. Alors évidemment, je pourrais le rayer. Mais d'autre part, anthropologie, ça m'intéresse aussi. Le logos sur l'homme, c'est intéressant quand même. Puisque ma philosophie regarde l'homme. Et je crois que le logos sur l'homme demande le dépassement de l'homme par rapport à la philosophie première. Pour avoir un regard nouveau sur l'homme au point de vue de l'être. Comme la théologie apporte un nouveau regard sur l'homme. Mais il y a anthropologie, philosophie première, théologie naturelle. Et chaque fois, j'ai un regard extrinsèque sur l'homme et qui me permet d'aller plus loin. Je regarde l'homme sous le point de vue de ce qui est. Je regarde l'homme sous le point de vue de Dieu. Mais c'est plus de l'anthropologie, tu vois, au sens kantien.
Vous avez dit que la loi du devenir, c'était une relation, mais est-ce qu'on peut dire que l'action de non-contradiction, c'est une relation?
Ben oui, pas bien. Quand vous voulez, ben, quand vous le dites. Vous le mettez à travers des relations. Exprimez-moi l'axiome de non-contradiction sans relation. Ça, vous seriez au-dessus des gueules. Alors, vous arriverez simplement à dire primo cadit in intellectus ens. Mais même là, primo cadit in intellectus, l'intelligence et l'être, c'est une relation. Une relation de nécessité absolue. Je ne peux pas parler de l'être sans l'intelligence. Je ne peux pas parler d'intelligence sans l'être. Puisque primo cadit.
Est-ce que vous pouvez préciser un peu plus cet aspect critique par rapport à la philosophie de CMU? Parce qu'on est habitué à cet aspect critique par rapport à la métaphysique.
Oui.
Mais
la critique, voyez, regarde toute la philosophie. Toute la philosophie est critiquable. Pourquoi? Parce que l'intelligence, quand elle saisit un principe propre, donc une cause, l'intelligence, quand elle saisit un principe propre, a la possibilité d'une auto-réflexion sur elle. Et la critique est nécessaire à cause de cette distinction que fait saint Thomas à la suite d'Aristote. Intellectus et raison, ratio, raison. C'est parce que c'est la ratio et le modus. Il y a une distinction entre les deux. S'il y a une distinction entre les deux, il faut nécessairement qu'il y ait une attitude réflexive pour voir le lien de ce conditionnement et de la finalité. Et je suis tout le temps dans cette attitude-là. Comme je peux critiquer la vie, et je dois critiquer la philosophie du vivant. Et que je peux critiquer toute l'éthique. C'est qu'au fond, on a très peu développé la critique au plan, vous voyez, au plan philosophique. On l'a développée uniquement au niveau métaphysique. Et on ne l'a pas développée du tout pour le reste. C'est très dommage. Parce que si on l'avait développée pour le reste, on verrait tout de suite en philosophie de la nature quel est le principe critique qui commande toute la philosophie. Ce qui est mieux, mais par un autre. je l'avais jamais vu, moi, je vous l'affirme. Parce que je n'avais jamais. Enfin, c'est la relecture d'Aristote qui me fait dire ça. Et maintenant, je comprends. J'avais jamais saisi parfaitement le lien entre le livre 7, métaphysique, et la métaphysique. D'ailleurs, on le saisit une fois qu'on est à ce niveau-là, hein, c'est net, c'est clair. Je comprends très bien tous les livres de la physique jusqu'au livre 7. On est dans l'analyse. Subitement, le livre 7, alors, il y a eu toutes les hypothèses, toutes les réflexions là-dessus, jusqu'à la dernière de celle de notre cher père Stéphane. Il faudrait que je relise sa thèse dans cette perspective. Je crois qu'à ce moment-là, je dirais non, il y a tel point qui n'est pas juste. C'est ça qui est terrible, hein. C'est qu'on met du temps à comprendre Aristote. Mais à ce moment-là, vous voyez, je crois qu'une fois qu'on voit ça, on voit que le livre 7, c'est comme un peu les livres mu et nu de la métaphysique, qui sont des livres critiques. Et 7 et 8, c'est des livres critiques. Alors, c'est des livres critiques au niveau physique, pour montrer la limite de la réflexion de la physique. C'est très bien. Vous voyez, le premier livre d'Aristote, hein, du livre physique, veut sauver la philosophie de la nature. Une philosophie de la nature est possible. On peut philosopher sur le devenir. Bon, ça, par rapport à Héraclite, par rapport à Platon, c'est merveilleux. Aristote fonde une philosophie du devenir. C'est quand même important. Et par le fait même, il donne une intelligibilité à la matière. Tandis que Platon ne donne pas d'intelligibilité à la matière. C'est du non-être. Et Héraclite. Le réalisme va jusque-là. Si vous n'acceptez pas l'intelligibilité du mouvement, du devenir, vous n'êtes pas être réaliste. C'est pour ça qu'on peut dire que les deux grands philosophes du devenir, c'est Aristote et Hegel. C'est les deux grands philosophes du devenir de l'intelligence. Là, ils se donnent la main. Mais vous voyez, dans deux manières totalement différentes. Ça, je crois que ce serait très important et bien développé aujourd'hui. Parce que ça montre la grandeur des gueules, mais en même temps l'erreur. Alors, on peut faire une critique de tout le devenir, après avoir montré qu'il existe, on montre ses limites. La philosophie ne peut pas s'arrêter à la philosophie du devenir. Elle doit être la philosophie de l'être. Et alors on ferait la même chose en éthique, vous voyez. On montrerait que la philosophie ne peut pas s'arrêter au bien. Elle doit être la métaphysique de l'être. Et ça, c'est quand même très important. Parce que la tentation, vous voyez, aujourd'hui, c'est de tout ramener à l'anthropologie. Donc à l'éthique. Ou au Fatueré, à l'art, Nietzsche. C'est par la créativité qu'on comprend l'homme. Alors il faut montrer que non, on ne peut pas. Philosophiquement, plan critique, philosophiquement, on ne peut pas s'arrêter. Et pour ça, il faut montrer les limites de la philosophie du venir. Alors, le livre 7, alors c'est admirable, ça. Ça déblaye le terrain. Et ça appelle une métaphysique. Alors, le livre 8 est plus complexe. Parce que le livre 8 veut être positif sur l'éternité du mouvement. le mouvement n'est pas éternel. On lira le passage de saint Thomas là-dessus. Puis vous lirez comment saint Thomas utilise dans le contrat gentilès. Je crois que c'est très important pour comprendre la somme.
Cours de philosophie de la matière par le père Philippe Arimont, le 5 avril 1990.
Pourriez-vous préciser l'articulation, c'est-à-dire les liens, la complémentarité et les limites des opérations suivantes? En fait, c'est tout droit. L'induction de l'être en acte, des vérifications critiques de saint Thomas dans les 5 voies, et d'Aristote dans le livre 7 de physique, la démonstration a posteriori qui conduit à découvrir l'existence de l'être premier. Je ne vois pas bien en particulier la différence entre la démonstration a posteriori et la démonstration critique par l'absurde. Alors, je reviendrai là-dessus. Ça, c'est un programme. Bon. J'avais envie, avec vous, de reprendre tout de suite, aujourd'hui, d'entrer dans le contrat gentilès, chapitre 13. Nous venons d'essayer d'entrer un tout petit peu dans Aristote, livre 7, 8. Mais je n'oublie pas ça. Voilà ce que dit saint Thomas dans ce chapitre 13. Je crois qu'il y en a combien parmi vous qui ont lu le chapitre 13 du contrat gentilès, livre 1er. Très bien. Oui, vous. Oui, vous aussi. Très bien. Vous aussi. Bon. Parmi les sœurs. Pas beaucoup. Donc on est devant. C'est bon d'essayer d'entrer dans ce chapitre 13. En comprenant le soubassement, vous voyez, je dis bien le soubassement d'Aristote qui est là, par derrière. Comment saint Thomas assume ça. Pas la peine de lire le début du contrat gentilesse, vous savez bien comment le contrat gentilesse se divise. Le contrat gentilesse est un livre extrêmement intéressant. Petite somme, très différente de la somme théologique, puisque c'est contrat gentilesse. Où saint Thomas, je vous lis le début pour que vous voyez bien. L'usage commun, côté la vie du philosophe, on doit suivre quand il s'agit de nommer les choses, ce qu'on appelle sages, ceux qui organisent directement les choses et présentent à leur bon gouvernement, et président à leur bon gouvernement, entre autres idées. Le philosophe affirme donc que l'office du sage est de mettre de l'ordre. Sapientis est ordinat. Ça, saint Thomas revient tout le temps là-dessus. Le propre du sage, c'est d'ordre. Or, tous ceux qui ont charge d'ordonner à une fin doivent emprunter à cette règle, à cette fin, la règle de leur gouvernement et de l'ordre qu'ils créent. Chaque être est en effet parfaitement à sa place quand il est convenablement ordonné à sa fin. La fin étant le bien toujours. Donc il n'y a de sagesse que quand on atteint la fin. Des causes. Tant qu'on n'a pas atteint la fin, il n'y a pas de sagesse. Et c'est pour ça que saint Thomas, c'est pour ça qu'Aristote considère que les mathématiques qui n'atteignent pas la fin ne sont pas une véritable sagesse. Mais c'est très très important. Donc toutes les sciences modernes qui ne regardent pas la fin ne peuvent pas nous donner la sagesse. Donc ne peuvent pas nous donner un véritable ordre. Toujours se le rappeler. Aussi, dans le domaine des arts, constatons-nous qu'un art détenteur d'une fin joue à l'égard d'un autre art le rôle de régulateur et pour ainsi dire de principe. La médecine, par exemple, oui, c'est intéressant, ça va tout de suite penser à la médecine. La médecine, par exemple, préside à la pharmacie et la règle. Un médecin entre dans une pharmacie, il a le droit de mettre l'ordre dans la pharmacie. Mais la règle, pour cette raison que la santé, qui est l'objet de la médecine, est la fin de tous les remèdes dont la composition relève de la pharmacie. Il en va de même de la fin de tous les remèdes dont la composition relève de la pharmacie. Il en va de même. Du pilotage, c'est intéressant, vous voyez, c'est la pharmacie et le pilotage, les deux aspects de ça d'abord, c'est pour ça que ça nous revient, de façon très particulière, du pilotage, par rapport à la construction des navires, de l'art de la guerre, par rapport à la cavalerie et aux fournitures militaires, ces arts qui commandent, qui commandent à d'autres, on les appelle architectoniques ou arts principaux. Ceux qui s'y ordonnent, que l'on appelle architectes, revendiquent pour eux le nom de sage. Donc, vous voyez, ce que saint Thomas veut faire, c'est une œuvre de sagesse et d'ordonner. Qu'est-ce qu'il va faire dans le contrat gentilesse ? Projet d'auteur, chapitre 2. Entre les études auxquelles s'appliquent les hommes, celle de la sagesse l'emporte en perfection, en élévation, en utilité et en joie. Pour ça, vous êtes toujours joyeux quand vous écoutez un cours de métaphysique. En perfection, car plus l'homme s'applique à la sagesse, plus il a part à la véritable béatitude. Le sage dit en effet, heureux l'homme qui s'applique à la sagesse, en élévation, car c'est par là surtout que l'homme accède à la ressemblance de Dieu, qui a tout fait en sagesse. Et comme la ressemblance est cause de dilection, l'étude de la sagesse unit spécialement à Dieu dans la pitié. Ce qui fait dire au livre de la sagesse que la sagesse est pour tous les hommes un trésor inépuisable, tel que ceux qui en ont usé ont eu part à l'amitié de Dieu. En utilité, car la sagesse elle-même conduit au royaume de l'immortalité. Donc voyez l'importance que donne saint Thomas à l'étude de la sagesse. Alors, ensuite, saint Thomas se pose la question, peut-on découvrir la vérité divine et comment ? Il existe plusieurs manières de découvrir la vérité. Comme le dit excellemment le philosophe, cité par Boès, c'est la marque d'un homme cultivé d'exiger seulement en chaque matière la rigueur que comporte la nature du sujet. Il faut donc commencer par montrer de quelle manière on peut découvrir la vérité proposée. Les vérités que nous proposons, que nous professons sur Dieu revêtent une double modalité. Il y a en effet sur Dieu des vérités qui dépassent totalement les capacités de l'homme. Dépassent totalement les capacités de l'humaine raison. Que Dieu, par exemple, soit trine et un. Il y a par contre des vérités auxquelles peut atteindre la raison naturelle. Que Dieu, par exemple, existe, qu'il soit un. Ces vérités, même les philosophes, les ont prouvées par voie démonstrative, guidés qu'ils étaient par la lumière de la raison naturelle. Qu'il y ait en Dieu un domaine intelligible qui dépasse totalement les capacités de la raison humaine, c'est l'évidence. Le principe de toute la science, que la raison peut avoir d'une chose, est l'intelligence, la substance de cette chose. Puisque selon l'enseignement du philosophe, le principe de démonstration est le « ce que c'est ». La manière dont la substance de la chose est saisie par l'intelligence commandera donc nécessairement la manière dont on connaîtra tout ce qui intéresse cette chose. Si donc l'intelligence humaine saisit la substance d'une certaine chose, mettons de la pierre ou du triangle, rien de ce qui est du domaine intelligible de cette chose ne dépassera la capacité de la raison humaine. Et c'est très intéressant de voir saint Thomas dire ça. Hein. Toute une espèce de vision. Mais c'est le jeune saint Thomas qui découvre Aristote. C'est une espèce d'euphorie extraordinaire. Étonnante. Je comprends que les gens qui lisent ça n'ont pas beaucoup de sympathie dans saint Thomas. Ils se mettent le doigt dans l'œil. Et la substance de la pierre va nous donner toute la connaissance de la pierre. Comme on n'a pas la connaissance de la substance de la pierre, on peut y aller. Hein. Il est facile de faire la même constatation en partant des degrés des intelligences. De deux êtres dont l'un a d'une chose une connaissance intellectuelle plus aiguë que l'autre, celui dont l'intelligence est plus haute connaît beaucoup de choses que l'autre est incapable de saisir. C'est le cas évident du paysan, qui ne peut saisir d'aucune manière les subtiles considérations de la philosophie. Or, l'intelligence de l'ange l'emporte sur l'intelligence de l'homme bien plus que l'intelligence du plus profond philosophe sur l'intelligence du plus rustre des ignorants. Car cette dernière distance se situe à l'intérieur des limites de l'espèce humaine, limites que dépasse l'intelligence angélique. Très joli, on passe d'un genre donné à une espèce toute différente. Entre l'homme et l'ange, il y a un abîme. Entre le frustre et le philosophe, il n'y a pas d'abîme.
ça que le philosophe s'intéresse toujours à l'intelligence un peu fruste. Ça lui rappelle les vieux jours. C'est pas ? Il les connaît. Tandis que l'ange s'intéresse pas beaucoup à ce que l'homme peut dire. Il n'y a que la béatitude de la foi de Marie qui intéresse ses anges quand Marie était sur la terre. Mais l'intelligence du plus grand philosophe n'intéressait pas beaucoup les anges. Les anges ne sont pas beaucoup intéressés à la philosophie d'Aristote. Pas beaucoup. C'est un type d'intelligence tout autre. Une connaissance intuitive. Notre connaissance, elle. Vous voyez, donc, le contrat gentilesse, c'est d'essayer de préciser ce que l'intelligence humaine peut dire. Tout ce qu'elle peut dire. Les trois premiers livres. Oui, c'est une apologétique philosophique extraordinaire. Je crois qu'on n'a jamais fait une apologétique aussi parfaite que celle-là. Tout ce que l'intelligence humaine peut dire, comme intelligence humaine. Puis alors, arrivé au quatrième livre, ce que la foi nous dit. C'est-à-dire qu'il faut une fois dans sa vie avoir lu le contrat gentilesse. Je crois, si on veut connaître un peu saint Thomas. Parce que c'est un très grand livre. Commencer le début de l'année, puis le terminer à la fin d'année. Scolaire, ça vaut la peine, tu vois. Ça vaut la peine, c'est pas ennuyeux du tout. C'est beau, c'est grand. Le contrat gentilesse. Je crois que le contrat gentilesse, saint Thomas l'a écrit après avoir redécouvert Aristote. De sorte que dans la pensée de saint Thomas, le contrat gentilesse représente un tournant très très puissant. Tout ce que l'intelligence humaine peut dire. Et il sera après capable d'écrire la somme. En se servant de tout ce que l'intelligence humaine peut dire. Alors, preuve de l'existence de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a avant ? Il faut voir avant aussi. Voilà. C'est le chapitre 10. Ça commence avec le chapitre 10. Hein. On ne va pas le voir, mais simplement vous situer. Parce que vous situer. Au chapitre 9, qui donne plan et méthode de l'ouvrage. Le sage, c'est donc évident, doit appliquer son effort à la double vérité des réalités divines, en même temps qu'à la réfutation des erreurs contraires. À l'une de ces tâches, la recherche de la raison peut suffire. L'autre tâche dépasse toute entreprise de la raison. Quant à la double vérité dont je parle, elle est à prendre, non point du côté de Dieu lui-même, qui est la vérité unique et simple, mais du côté de notre connaissance, qui devant les choses de Dieu revêt diverses modalités. Alors, chapitre 10. De l'opinion selon laquelle l'existence de Dieu ne peut être démontrée, cette existence étant connue par soi. Position de Heidegger, chapitre 10. C'est intéressant pour trouver ça, et comme c'est actuel. Heidegger considère que l'intelligence humaine, dans tout son effort de philosophie, d'ontologie fondamentale, arrive à connaître l'être. De l'opinion selon laquelle l'existence de Dieu ne peut être démontrée, cette existence étant connue par soi. Et donc le philosophe attend que Dieu vienne. On ne peut connaître Dieu que si Dieu vient vers nous. Puisque l'existence Gibson. C'est pas étonnant. N'oublions pas que Heidegger était très séduit par Luther, par Calvin. Et donc, il en est resté quelque chose. Il est mort dans l'Église catholique, mais son intelligence est restée à la porte de l'Église catholique. Il était influencé par Luther et Calvin. Et donc, pour Luther et Calvin, impossibilité pour l'intelligence humaine de démontrer l'essence de Dieu. Il faut que Dieu vienne nous éclairer. Alors là, c'est très intéressant, ce point de vue-là, vous voyez. Je prends le premier argument, parce qu'il est intéressant, cette étude, donc chapitre 10 du Contrat Gentiles, cette étude au terme de laquelle on compte avoir démontré l'existence de Dieu, pourra paraître inutile à certains, mais Satama connaît son public, pour qui l'existence de Dieu est connue par soi, si bien qu'il est impossible de penser le contraire, et qu'ainsi on ne saurait démontrer que Dieu existe. Voici les arguments mis en avant. Pas de démonstration de l'existence de Dieu. Dieu est connu directement, ou il est complètement transcendant. Alors, voici les arguments. Est connu par soi, dit-on, ce qui est connu dès que l'on en connaît les termes. Par exemple, dès que l'on connaît ce qu'est le tout et ce qu'est la partie, on sait que le tout est plus grand que la partie. Or, il en va de même quand nous disons que Dieu existe. Oui. C'est plutôt la position d'Anselme, saint Anselme, que saint Amaroy lui met ici. Et parce que je croyais cette existence étant connue par soi et qu'on ne pouvait la connaître que par la foi. Ici, c'est pas ça. C'est de dire que Dieu, l'existence de Dieu, n'est pas démontrable. Parce qu'elle est évidente. Donc dire Dieu existe, c'est une évidence. Or, il en va de même quand nous disons que Dieu existe. Dans le mot « Dieu », nous saisissons une chose telle qu'on en puisse penser de plus grande. Oui, saint Anselme, signé Anselme. C'est l'idée qui se forme dans l'esprit de celui qui entend prononcer le nom de Dieu et qui en saisit le sens. Ainsi, l'existence de Dieu est-elle nécessaire déjà, au moins dans l'intelligence. Mais si vous pensez Dieu, on présuppose que vous pouvez le penser, puisqu'il y a le mot, il y a le mot Dieu. Dès que vous pensez Dieu, vous pensez un être dont on ne peut pas penser un être plus grand. Donc, si vous pensez Dieu, vous pensez nécessairement que Dieu existe. C'est le raisonnement de Saint-Anselme, parce que si Dieu n'a pas nécessairement son existence, vous pourrez penser un être plus grand qui, lui, a son existence. Or, il n'y a pas d'être plus grand que Dieu, donc il a son existence. Vous allez voir. C'est l'idée qui se forme dans l'esprit de celui qui entend prononcer le nom de Dieu et qui en saisit le sens. Ainsi, l'existence de Dieu est-elle nécessaire déjà, au moins dans l'intelligence? Mais Dieu ne peut exister seulement dans l'intelligence. Ce qui existe à la fois dans l'intelligence et dans la réalité est plus grand que ce qui existe dans la seule intelligence. Or, l'idée même qu'exprime le nom de Dieu montre qu'il n'y a rien de plus grand que Dieu. Reste donc que l'existence de Dieu est connue par soi, manifestée pour ainsi dire par le sens même du nom. Le nom Dieu signifie la réalité la plus grande qu'on puisse penser. Donc, l'idée que j'ai de Dieu, par la signification du mot Dieu, implique l'existence. Et ce Dieu, dont je pense la signification, existe nécessairement. Parce qu'autrement, il y aurait une réalité qui, elle, existe en dehors de lui. Et donc, il serait plus grand que lui. Il est possible, deuxième raison, il est possible de penser à l'existence d'un être dont on ne puisse penser qu'il n'existe pas. Cet être est évidemment plus grand que celui dont on peut penser qu'il n'existe pas. Ainsi donc, on pourrait penser à un être plus grand que Dieu, si l'on pouvait penser que Dieu n'existe pas. Reste donc que l'existence de Dieu est connue par soi. Une petite logomachie, ça porte, ça... Les gens sont très séduits par ça. Parce qu'ils ne comprennent rien. Bon, vous voyez, c'est intéressant que saint Thomas reprend. Voyez, ce qui est intéressant dans le contrat gentilesse, hein, c'est que saint Thomas est en face d'une tradition qui est la tradition de saint Anselme. Le bec est loin, saint Anselme. Eh bien, ils sont en face d'une tradition dont saint Anselme a été grand. Il faut connaître le petit traité de saint Anselme. Ça, absolument, ça fait partie d'une culture chrétienne. Il faut lire les trois argumentations successives de saint Anselme. Il faut au moins en avoir le désir. Puis une fois aller dans la bibliothèque, puis regarder ça, puis regarder un petit peu, et voir comment saint Anselme a fait ça. Abbé, un petit novice, j'aime lui dire, ouverture du cœur. Un petit novice, j'aime lui dire, dès que je me fais faire méditation, tout de suite, ah, je suis très troublé. Je suis très très troublé. Est-ce que Dieu existe? Quand je ne fais pas de méditation, je ne me pose pas le problème. A fortiori, c'est évident. Je crois. Mais dès que je me mets à méditer, immédiatement, je me dis, mais est-ce qu'il existe? Ou est-ce que c'est une imagination? Est-ce que Dieu existe? Petit novice, alors saint Anselme, en bon abbé, commence à dire, qu'est-ce que je vais lui dire? Pour lui montrer que mais c'est idiot de se poser la question. Incipiens, in corde suo, dixit Deus non est. C'est l'incipiens. Donc tu deviens un abruti quand tu veux méditer, puisque tu es pris par cette espèce d'imagination qui dit que Dieu n'existe pas. C'est l'insensé qui dit dans son cœur que Dieu n'existe pas, le psaume. Donc, si c'est l'insensé qui dit dans son cœur que Dieu n'existe pas, ça prouve qu'affirmer que Dieu n'existe pas, c'est absurde. Il faut donc montrer l'évidence. Quand tu dis Dieu, tu dis qu'il existe. C'est le nom de Dieu qui implique dans sa signification l'existence. Toutes les argumentations de saint Anselme sont pour montrer ça. Et il fait ça pieusement, hein, en direction spirituelle. En face d'un petit novice qui est troublé. C'est très important de comprendre ça, voyez. Saint Anselme ne fait pas ça du tout comme un traité de philosophie. Non, apologétique. En face d'un petit novice troublé. C'est quand même touchant. Extrêmement touchant que ce petit novice troublé fait que saint Anselme s'y remet. Il y a trois fois de suite, hein. Il n'a pas fait ça d'un seul coup. Il a d'abord essayé de comprendre, puis le petit novice a dit, mais non, c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça. Puis, trois fois. Alors, à la fin, il arrive à quelque chose qui est pour lui absolument. La question, est-ce que Dieu existe? C'est une évidence. Le nom Dieu implique l'exister. Parce qu'autrement, Dieu ne serait pas la plus grande réalité à laquelle je puis penser. Dieu est la plus grande réalité à laquelle je puis penser. Oui, alors, ce raisonnement de saint Anselme a pénétré en dehors du novice. Sans doute que ça a été donné au chapitre pour toute la communauté. Toute la communauté a trouvé que c'était admirable, merveilleux. Puis c'est sorti en dehors, puis c'est entré dans l'université. Petit novice, le chapitre, l'université. Puis c'est devenu le grand argument. Et je vous affirme, je connais des sans-bonheurs je trouve que les arguments de saint Thomas, c'est rien du tout. Tandis que dans ça, c'est bien. Je l'ai entendu. Étienne Borne. Saint Anselme, ça, c'est sérieux. Saint Thomas, non. Ça repousse sur Aristote. Saint Anselme, ça, c'est sérieux. Ça, c'est une espèce de méditation. Vous voyez, une sorte de raisonnement. C'est pour ça qu'il faut regarder ça. Vous voyez, à tout prix, nous connaître ce qui séduit la pensée moderne. La pensée moderne est séduite par certainement sa pensée. C'est Étienne Borne. Parce que Saint Anselme est beaucoup plus proche de la phénoménologie que Saint Thomas. Saint Anselme, c'est un ontologisme le plus remarquable qui soit. Ça, c'est très séduisant. Il faut le connaître. Vous voyez, on ne comprendra bien les voies d'accès de saint Thomas, ou plus exactement, l'effort de saint Thomas. C'est pour ça que je voulais tout de suite vous mettre là en face du chapitre 10. Tout de suite, saint Thomas donne la grande objection, saint Anselme. Alors, c'est très curieux que dans la somme, saint Thomas ne parle plus de saint Anselme. Alors qu'il en parle dans le commentaire des sentences. Et dans le contrat de la Thilèse. Il n'en parle plus. Et vous voyez, c'est très intéressant parce que quand vous regardez notre cher pape actuel et quand vous voyez Froissart, le dialogue de Froissart et du pape, Froissart lui pose la question très sévère : qu'est-ce qui est pour vous les voies d'accès vis-à-vis? Sont-ce les voies intérieures ou les voies extérieures? Aristote, Anselme. Il s'avertit que les voies intérieures le séduisent bien plus. Il ne refuse pas les voies extérieures, mais il dit. Ça m'a beaucoup frappé, c'est pour ça que j'ai retenu. Mais c'est très important pour nous. De voir qu'il y a eu tout le temps, jusque maintenant, les deux voies. La voie interne, qui a été dominée parfaitement par saint Anselme. C'est un chef-d'œuvre, saint Anselme, vous voyez. C'est un chef-d'œuvre, dans cet ordre-là. Et puis, Aristote. Et alors, c'est curieux, vous voyez. Saint Thomas, chapitre 10, 13, Aristote. Alors on a dans Saint Thomas les deux. Le pape actuel prend les deux aussi. C'est très intéressant. Saint Thomas donne les deux, mais il en réfute une. Le pape actuel voudrait bien maintenir les deux. Ça, j'en suis sûr. Très bien maintenir. Alors, on peut maintenir les deux, si on en met une avant l'autre. Il ne faut pas refuser les voies intérieures. Il ne faut pas les refuser. Il faut les mettre à leur place. Mais c'est ça que je voudrais que vous sentiez. Parce que ça, c'est important. C'est très important de sentir la sensibilité moderne. Culturation. Donc il faut sentir la mentalité moderne. La mentalité moderne, elle accepte la phénoménologie, le vécu. Alors le vécu, c'est l'expérience interne. Et donc vous êtes tout proche de saint Anselme. Tandis qu'Aristote, c'est l'objectivité. Aristote est très abondant. il est très abandonné, bien que, il faut le dire, depuis des 30 ans, Aristote revient. Quelqu'un qu'on reconnaît. On le respecte. Vous voyez, je vous donne ce petit exemple, parce qu'il m'a été dit, je suis en cause, ça n'a pas d'importance ici. C'est notre cher Frédéric Lenoir, notre frère Nathanaël, qui sent les choses. Il sent qu'il y a une reprise de l'éthique. Alors, il veut faire un livre sur l'éthique. Au point de vue philosophique, il m'a dit, est-ce que vous acceptez de dire quelque chose au plan philosophique? Il dit oui. Et en voudrait un autre. Je dis oui, tout à fait. Il ne faut surtout pas que je sois seul. Alors l'autre, il dit, qui est voyé? Alors je dis, peut-être Lévinas. C'est sûrement le philosophe le plus préoccupé de l'éthique aujourd'hui. Alors, il fallait que Lévinas accepte. Avec moi. Je dis pas que vous voyez ce que c'est qu'on a de l'âge. C'est un très curieux attelage. Mais qui se comprend, je suis beaucoup plus proche de Lévinas qu'à l'égard de beaucoup d'autres. Parce que Lévinas a un sens mystique très fort. Très très fort. Ça se sent. Alors quand il a demandé à Lévinas, est-ce que vous acceptez que ce soit le père Philippe qui veut nous... Lévinas, c'est spontané, il m'a dit, ah oui, c'est un très bon aristotélicien. Mais c'est très curieux comme réaction, c'est intéressant. Mais on n'a jamais dit ça il y a quelques années. Et pour lui, mais oui, il y a la voix d'Aristote. Ça dure. Et puis, il y a la voix phénoménologique. La voix intérieure, la voix de l'intérieur. La voie de l'intériorité, quand on commence et quand on n'a que cela, ça reste limité. Il le reconnaît. Mais alors, c'est pour vous dire ça, c'est pour vous dire que quand on touche ces choses-là, on est très proche de la mentalité moderne, de ceux qui pensent, moi. Parce qu'évidemment, il y en a qui ne pensent plus du tout, puis ils finissent pas. Mais ceux qui pensent, c'est l'intériorité et la voie de l'intériorité. Le premier dans la voie de l'intériorité, c'est un saint Anselme. Et la voie de l'intériorité, vous voyez, est toujours très proche d'une voie apologétique. Et la voie objective d'Aristote et de saint Thomas permet beaucoup plus le dialogue avec les savants. Encore une petite remarque. Professeur Marois, qui était grand ami de Paul VI, était le seul invité au Concile comme représentant de la science. Je l'ai vu peu de temps après le Concile, dans un dialogue qu'on avait ensemble. Et c'était sur le problème du mal. Il a dû subir un topo que je faisais sur le mal. Pendant une heure et demie, à tout point si sérieux, parce que je savais très bien que c'était qui était là. Alors, après quelques questions posées, je ne savais pas c'était qui, puisque je ne le connaissais pas. Il lève la main, il demande la parole, et il dit, je tiens à dire que moi, en tant que biologiste, ce qu'a dit le père Philippe, je suis entièrement d'accord. Puis après, il m'a dit, c'est curieux, pendant tout le concile, je n'ai jamais pu parler une seule fois à un théologien. Pourquoi? Quand on se trouve l'un en face de l'autre, on ne se connaît pas. Tout de suite, on voit que le dialogue est possible. Alors je dis, c'est pas étonnant, parce qu'une quantité de théologiens d'aujourd'hui sont dans une perspective humaine. Ils ne sont plus dans la perspective réaliste. Mais, alors, c'est très intéressant de comprendre, parce qu'on doit essayer de saisir ces choses-là. La phénoménologie sera très proche de la plupart des théologiens d'aujourd'hui. seront dans cette perspective-là. De fait, ils seront beaucoup plus proches de tout l'aspect psychologique. L'intériorité. Et saint Thomas et la philosophie aristotélicienne nous met tout proche des avants. Je dis pas qu'on est... On dit la même chose que pas du tout. Mais on respecte l'expérience. Et ça, je crois que c'est très important, l'expérience objective. Tandis que si vous prenez uniquement l'expérience interne, vous comprenez, mon expérience interne, maintenant, n'est pas du tout la vôtre. Puisque moi je parle et vous vous écoutez. C'est pas la même expérience interne. On essaie d'ajuster nos violons. Mais c'est pas toujours commode, pas. Alors, on a deux positions différentes. Si ce que je dis est en conformité avec une expérience externe, vous pouvez, vous, de votre côté, être en conformité avec une expérience externe. Et donc, on s'unit. Si au contraire, je pars de l'expérience interne comme un absolu, j'ai ma philosophie. Chacun la nôtre. Parce que de fait, l'expérience interne est tout à fait propre et originale. Alors voyez, pour le problème aussi important que de savoir si on peut découvrir Dieu par notre intelligence, il est quand même capital de comprendre ce que saint Thomas dit dans ce chapitre 10, livre 1er du Contrat Gentiles, saint Anselme. Chapitre 12, chapitre 11, je dis à Dieu. Saint Thomas montre réfutation de l'opinion précédente et réponse aux arguments mis en avant. Chapitre 13, preuve de l'existence de Dieu. Ça, c'est saint Thomas. Et saint Thomas ne va pas du tout prendre une expérience externe. Nous avons dit, donc, nous allons maintenant, ça va être assez long. Ça va être très fastidieux, très difficile, mais je le fais par devoir d'État. Très, très fastidieux, je vous avance, hein. Ça devrait se faire en séminaire. Mais je crois qu'il est bon, une fois dans sa vie, d'avoir lu. Comme saint Anselme. Si on avait le temps, je ferais d'abord saint Anselme. Puis après, immédiatement après saint Thomas. Parce qu'alors, ça jure. Il faut comprendre ça, il faut comprendre qu'il y a là une lutte extrêmement intéressante, l'ontologiste de saint Anselme et le réaliste de saint Thomas. Et saint Anselme est merveilleux pour comprendre ce que c'est que l'ontologisme. Mais la confusion entre le vécu et le réel. Contre cette confusion, Kant envoie des boulets rouges. C'est la grosse artillerie kantienne. La grosse artillerie prussienne. C'est Kant. Une artillerie formidable qui fait tout sauter. Mais saint Thomas est à l'abri de tout ça. N'est pas atteint par l'artillerie kantienne. Absolument pas. Parce que Kant n'a jamais lu saint Thomas. Mais saint Anselme, il le saisit à travers tous ses successeurs. Nous avons dit qu'il n'était pas inutile de s'efforcer de démontrer l'existence de Dieu. Il est temps maintenant d'exposer les arguments mis en œuvre. Aussi bien par les philosophes que par les docteurs catholiques pour prouver que Dieu existe. Saint Thomas va faire une synthèse. Nous exposerons d'abord avec quel argument Aristote mène sa démonstration de l'existence de Dieu. Voyez, dans la somme, saint Thomas ne nomme pas Aristote. sont autorité. Ici, non. Exposons d'abord avec quel argument Aristote mène sa démonstration de l'existence de Dieu, qu'il entreprend prouver à partir du mouvement selon deux voies. Ah. Voici la première de ces voies. Tout ce qui est mu par un autre. Saint Thomas s'appuie sur Aristote, donc il a tout à fait raison, et tout à fait il peut. Tout ce qui est mu par un autre. Or, il est évident pour les sens qu'il y a des choses mues. Le soleil, par exemple. Non, c'est ce qu'on touche le plus immédiatement, le mouvement du soleil. Le soleil est donc mu par un moteur différent de lui. Ce moteur sera lui-même mu, ou ne le sera pas. S'il n'est pas mu, nous tenons le but proposé, à savoir qu'il est nécessaire de poser un moteur immobile. Ce moteur immobile, nous l'appelons Dieu. Si ce moteur, par contre, est mu, il sera mu par un autre, dans ce cas, ou bien il faudra remonter à l'infini, ou bien il faudra s'arrêter à quelque moteur immobile. Mais on ne peut remonter à l'infini. Il est donc nécessaire de poser l'existence d'un premier moteur immobile. Hein? Ça, vous voyez, l'ordre est donné. Hein? Ma réponse. Alors, vous voyez, faites ça, on continuera. Il y a un son court.